dans le cadre de l'historique des maisons de jeunes réalisée par le service de la jeunesse de la communauté française, une collecte de témoignages oraux est menée conjointement par l'Institut d'histoire ouvrière, économique et sociale et le service de la jeunesse. Le présent entretien est un entretien semi-directif qui va porter sur l'histoire des maisons de jeunes. Le témoignage qui va suivre est celui de M. Yves Van de Vloet. Les personnes qui recueillent le témoignage sont Anne Brochet du service de la jeunesse, Ludo Bettens de l'Institut d'histoire ouvrière. Nous sommes le 8 juillet 2010, nous nous trouvons au gouvernement provincial à Mons. Le matériel d'enregistrement utilisé est un enregistreur portable digital stéréo de la marque Marantz PMD 661. Bonjour Monsieur Van de Vloet. Pourriez-vous, en quelques mots, vous présenter et présenter l'ensemble de votre carrière, je dirais.
Ok, ben je vais essayer d'être le plus synthétique parce que quand on approche la soixantaine, le 23 août en aurait 60, on a quand même un moment de fonctionnement non négligeable puisque je commence à travailler en janvier 1972. C'est mon premier boulot et mon premier boulot sera d'ailleurs celui d'être ce qu'on appelait l'animateur, coordonnateur, directeur, concierge et autres de la MJF, c'est-à-dire la Maison des Jeunes de Forêt qui se trouvait à Forêt, 18 place Saint-Denis. Donc j'ai effectivement, d'abord sur le plan rapidement professionnel, j'ai travaillé comme responsable de cette maison de jeunes jusqu'en octobre 1976. Cela va s'arrêter à Forêt dans le cadre d'un conflit qui va opposer la maison des jeunes de Forêt, où également mon adjoint de l'époque était Jean-Pierre Brun, et les licenciements se faisant, ben, je vais travailler dans la formation des assistants sociaux, des travailleurs sociaux, puisque moi-même, j'étais sorti en 1972 de ce qu'on appelait l'Institut d'enseignement social de l'État à la rue de la Billière-Ixelles, qui formait donc des assistants sociaux. Et donc, en gros, de 1976 jusqu'en 1988, je vais consacrer une dizaine d'années à la formation des futurs travailleurs sociaux, en grande partie à l'IPSMA, l'Institut provincial des sciences sociales et pédagogiques de la province du Hainaut, et en partie à l'école sociale de l'État de la rue de l'Abbaye, dont j'étais moi-même sorti. Et j'aurai d'ailleurs à donner les premiers cours qui d'ailleurs apparaissent dans ces formations, dits de ce qu'on appelait le développement communautaire, partant de l'idée que si le travail social nécessite des réponses individuelles à des gens en détresse, il y a aussi nécessité de les aider à reconstruire un projet social, un projet collectif, c'est plus ce qu'on appelait les méthodologies de travail collectif et donc le développement communautaire qui partait de l'idée de l'analyse des quartiers, de l'analyse des contextes sociaux, des moyens d'action des citoyens et d'essayer que l'usager ne soit pas un usager isolé, individualisé, mais soit un usager dans un esprit ou dans une démarche plus collective. Donc je vais donner le cours de développement communautaire, je vais donner le cours d'initiation aux politiques culturelles et je vais entre autres dans ces cours aborder tous ces outils qui ont été à l'époque récemment créés, 1971, les maisons des jeunes, les législations dans le domaine des maisons de la culture, des centres culturels, donc ce cours-là je vais le donner. Je vais faire ça jusqu'en 88 et en 88 j'ai l'opportunité de rejoindre le cabinet du ministre président de la communauté française Van Mifeo qui dans ses compétences a ce qu'on appelait globalement culture et éducation permanente et là-dedans il y avait le sous-secteur jeunesse et donc je serai à ce cabinet en 1988 et je vais y travailler jusque 92 pour travailler sur à la fois ce dont on parle déjà depuis 1974, le fameux projet de décret sur les maisons de jeunes qui s'appellera projet de décret sur les centres de jeunes et qui va connaître de multiples moutures pour accoucher encore beaucoup plus tard sous l'ère du ministre Tamignot. Ce sera aussi le départ du développement des relations internationales de jeunesse. On a de plus en plus développé ça. J'étais notamment dans les fondateurs de ce qu'on appelait l'agence Québec-Wallonie-Bruxelles pour la jeunesse, la QBBJ, qui elle-même prolongeait une volonté de coopération entre le Québec et la communauté française. Et puis, je serai à la manœuvre pour la mise en place institutionnelle entre la DG Culture et le CGRI de ce qu'on appelait à l'époque l'Agence de promotion des activités internationales de jeunesse, l'APEJ, qui va évidemment donner plus tard l'outil du BIJ avec les moyens dans le secteur de la jeunesse qui existent. Alors, après ce passage au cabinet de Valmy Feillot, en 90, je ferai pendant 18 mois, je vais travailler à la Fondation Roi Baudouin, où je vais avoir la responsabilité du lancement du troisième programme de lutte contre la pauvreté. Et je vais principalement m'occuper du volet francophone, puisque la Fondation Roi Baudouin était une institution qui tenait compte évidemment aussi de la spécificité des changements institutionnels francophones, flamands, et donc je vais participer à cela. Et en 1991, je vais rejoindre le cabinet du ministre président de la région Bruxelles-Capitale, Charles Piquet. Et je vais travailler pour lui pendant une dizaine d'années, à peu près jusqu'en 1999, comme conseiller puis comme chef de cabinet adjoint, mais essentiellement sur les matières régionales. Je dis essentiellement sur les matières régionales, parce que si vous vous souvenez, à partir de 1994, Charles Piquet va se trouver dans deux exécutifs. Il est à la fois le ministre-président de la région bruxelloise, mais également le ministre de la Culture et de l'Éducation permanente au sein du gouvernement de la communauté française. Et donc, dans le cadre des activités que j'aurai chez Charles Piquet, ben, on part évidemment de l'idée que j'arrive avec le bagage à travailler sur le social, sur les actions de prévention dans le domaine de la jeunesse chez Feillot, mais même à la Maison de Jeunes de Forêt, un des aspects était aussi un travail préventif. Et donc, le souci d'un ministre, c'est toujours de mettre ses collaborateurs à la meilleure place possible. Et donc, je me vois confier en gros tout ce qui sera les approches, l'aide aux approches préventives des communes bruxelloises. Et l'aide à l'approche préventive des communes bruxelloises va être très vite budgétisée, va très vite être contractualisée et va faire naître un nouvel outil centré vers les communes que seront les contrats de sécurité. Puisqu'il faut savoir que les contrats de sécurité vont connaître leur création à la fin de l'année 92, je suis rentré en 91 et donc c'est un dispositif, sans entrer trop dans les détails, mais enfin qui était un cofinancement fédéral et régional pour les communes, dans un souci à la fois sécuritaire classique, renforcer les forces de police qui étaient en déficit dans les cadres bruxellois, mais accompagner l'action policière d'une action socio-préventive, c'est-à-dire des dispositifs d'éducateurs de rue, des dispositifs d'assistance aux victimes, des dispositifs centrés sur les problématiques de la toxicomanie. Donc je vais faire cela pendant effectivement une dizaine d'années et en 1999, quand Charles Piquet achève deux mandats successifs de ministre-président, il part lui comme commissaire chargé de la politique des grandes villes, qui va assurer pendant une année avant de devenir ministre de l'économie et des grandes villes. Et à ce moment-là, moi, je vais travailler comme directeur d'un tout nouveau département qu'on va mettre sur pied au sein du ministère de l'Intérieur, qui est ce qu'on appelle le secrétariat permanent à la politique de prévention, vaste secrétariat vos Preventiebeleid, puisque c'est un outil national qui est censé évaluer cette politique des communes, dite des contrats de sécurité, qui est censé former les intervenants et qui est censé aussi préparer les décisions du Conseil des ministres fédéral dans le domaine sécurité et prévention. Je vais donc suivre les 75 contrats de sécurité belges et les 28 plans de drogue qui ont été lancés. Donc on voit que cette politique contractuelle vers les communes, non seulement se fait à Bruxelles, se fait en Wallonie, mais se fait également en Flandre, avec l'un ou l'autre événement plus spécifique à mettre sur pied. C'était la grande aventure du dispositif que j'ai coordonné lié à ce qu'on appelait l'Euro 2000, c'est-à-dire le grand mouvement du football, et de se dire comment assurer que à peu près 400 000 venus sur les 8 villes organisatrices, 4 villes belges, 4 villes hollandaises, comment assurer que ça se passe bien avec le phénomène d'hooliganisme, l'exacerbation des poussées ultranationalistes de l'équipe qui perd ou de l'équipe qui gagne. Et donc ça va être un travail que je vais faire pendant un certain nombre d'années, jusqu'en 2005. Et en 2005, je vais reprendre une fonction de directeur à la police de Bruxelles XL comme expert, donc comme expert civil, je ne sais pas, un statut de fonctionnaire de police, et je vais avoir en charge à peu près les mêmes matières, c'est-à-dire je vais développer plus le travail prévention de la police, avoir un intérêt plus spécifique aux phénomènes nouveaux liés à la problématique des bandes urbaines. Et je veux aussi avoir chez moi les analyses de criminalité ainsi que l'assistance aux victimes. Donc c'est une direction qu'on a évidemment étoffée pour justifier aussi que si on met un directeur, il faut quand même qu'il dirige un certain nombre de petites boîtes de la maison. Je vais exercer 2 mandats à la police de Bruxelles. Et puis voilà, maintenant dans les dernières périodes professionnelles, comme je le disais, approchant la soixantaine, je vais encore travailler, je ne sais pas, moi, 3 ans, 4 ans, on ne sait pas, 5 ans, on verra. J'ai eu la proposition, qui est un peu une synthèse de toute une série de choses passées, de m'occuper ici d'un projet européen qui se situe dans l'Interreg 4, qui s'appelle APOR, c'est l'aide à la préparation des plans et de l'organisation en matière de risques transfrontaliers. En gros, c'est de se dire qu'aujourd'hui, dans le territoire qui borde le Hainaut, le Nord-Pas-de-Calais, on a des entreprises Seveso, on a des conduites de gaz importantes, on a 60% du trafic dangereux européen qui y passe. Et donc, l'expérience de Guy Languien a montré l'opportunité d'avoir des secours efficaces et surtout de travailler de manière transfrontalière. Donc, c'est la coopération en clair des disciplines pompiers, SMUR, aide médicale urgente. Donc, nous sommes dans une phase pour l'instant de recensement des législations, des recensements des moyens existants et de pouvoir, à partir de là, les engager. Et j'ai aussi, corollairement à cela, vu mon passé à l'intérieur et à la police de Bruxelles, l'aspect de la coopération policière transfrontalière, c'est-à-dire le suivi de l'accord de Tournai qui prévoit que policiers belges et français travaillent ensemble dans les zones transfrontalières. Voilà. Hein. Mais j'ai gardé pendant toute cette époque, à côté de la vie professionnelle, un lien avec la culture, puisque je rappelais que j'étais responsable de Maison Jeanne. J'ai aussi été pendant plus de 10 ans président de la Fédération des institutions socioculturelles, qui est une des fédérations de Maison Jeanne, dont un certain nombre sont basés, étaient et sont toujours basés dans le Hainaut. Car ce titre-là, j'ai siégé à la commission consultative des centres de jeunes. Et j'ai aussi été président, je suis toujours administrateur, mais j'avais dit que je n'irais pas au-delà des 10 ans, du théâtre Marny, qui se trouve près de la place Flaget. Et ça a aussi été un beau défi, puisqu'il a fallu entièrement monter ce projet. Théâtre qui non seulement accueille des compagnies théâtrales, des compagnies de danse, mais fait également un travail de proximité avec l'environnement immédiat, notamment dans l'opération Été Jeune, où on a développé toute une série d'activités. Et je suis depuis presque 3 ans président du centre culturel de ma commune, le centre culturel de Silly. Donc ça veut dire que j'ai gardé avec l'administration de la communauté, les cabinets des ministres de la Culture, l'inspection, des contacts qui font que je ne suis pas tout à fait haut du secteur, mais qui est plus dans mon engagement social que dans l'engagement professionnel, puisque professionnellement, tout est dans tout, mais enfin, c'est essentiellement ici sur des matières de sécurité publique que je fonctionne et non pas sur le plan culturel. Encore que je vais aller demain à Jeumont en France, dans le cadre d'un colloque, où on réfléchit sur justement le sentiment ou pas ou insuffisant d'appartenance entre les Français du Cambrésis, du Valenciennois et les Wallons de l'autre côté de la Brenne. Pourquoi ? Parce que si on veut faire réussir le transfrontalier, auquel je crois beaucoup, parce que notamment sur le plan culturel, il y a notamment avec les passeports culturels, la coopération du Manège, Mons, Maubeuge, quand on voit aussi les collaborations avec Lille, Courtrai, etc., ça passe par la culture. Et donc, si je suis resté dans l'engagement culturel, c'est parce que je crois que c'est une des dimensions qui facilite le rapprochement des gens et qui donc alors permet de décliner des coopérations en formation professionnelle, en soins intensifs, en secours d'urgence, une série de choses. Mais on ne crée pas ce genre de collaboration si les gens n'ont pas une identité. Et donc ça, c'est un petit peu le défi professionnel. Voilà. Vous parliez du politique aussi ? On aborde aussi ça ? En deux mots, justement, j'ai, à côté de cet engagement, j'ai aussi été, on ne fera pas un secret de ça, puisque depuis 1976, je suis membre du PS. J'ai participé activement à la commission du pacte général présidée par Henri Imbert, que j'avais eu aussi comme mentor en tant que chef de cabinet chez Van Miféo. Et forcément, j'ai aussi participé à toutes les commissions liées aux questions de sécurité du PS. Je faisais partie de la petite task force de la négociation dite réforme des polices au printemps de 1998. Et j'ai gardé, j'ai été élu local à Ixelles pendant 12 ans, j'ai été conseiller de CPS à Saint-Gilles quand j'ai vécu à Saint-Gilles, et je suis aujourd'hui conseiller au CPS de Silly, donc ça garde la même cohérence. Je ne suis ni ministre, ni député, ni secrétaire d'État, ni sénateur, et je n'en ai pas ça dans mes projets à court terme.